Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Puisque le Festival de Cannes 2020 n'a pas eu lieu cette année en raison du Covid-19, dont le slogan emprunté à Alexandre Dumas est, je le rappelle, un pour tous, tous pour un, et cela même si parmi les 2067 films visionnés par Thierry Frémaux, 56 auront quand même le droit d'arborer le prestigieux logo représentant une paire de palmes, et exceptionnellement donc cette année un masque, et bien sûr un tuba, puisque Cannes n'a pas eu lieu, donc Roland-Garros non plus, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne, parce que cela nous évite ces plans de coupe poussifs sur des people et Patrick Poivre d'Arvor dans les tribunes, les mêmes people et Patrick Poivre d'Arvor photographiés deux semaines plus tôt sur les marches du Festival de Cannes à se demander quand ils trouvent le temps d'aller au bureau, et la mauvaise, parce que cette année non plus, ça n'aura pas laissé la moindre chance de remporter, enfin disons de se qualifier. Comme le dit si bien mon beau-frère, Roland-Garros, c'est un peu l'Eurovision du tennis. Et encore, me permets-je à chaque fois d'ajouter, ce n'est pas commenté par Stéphane Bern. Mais pour en revenir au cinéma, dont les portes vont enfin rouvrir le 22 juin, et ça c'est une bonne nouvelle, il faut l'encourager, comme tous les arts et toute la culture, à reprendre du poil de la bête, comme le dit si bien José Garcia, qui s'y connaît et en poil et en bête. On en parlera avec William Lebgill en deuxième partie d'émission, après avoir rembobiné la première de partie, je veux dire, avec Carole Rocher. Pop, en ce mardi 9 juin de cette année de merde 2020, c'est parti, et c'est parti en musique avec Orelsan.
France Inter. Pop, Antoine de Paune.
J'arrive comme devine qui vient de sortir l'album de l'année. Hey. J'ai passé 2018 en vol plané. Hey. Je suis genre de loser qui fait que gagner. Hey, les gamins finis de jouer, je suis pour confisquer la play. Trop de porno, on est déséquilibré. Faut que les meufs en maths plus pour équilibrer. Hey, j'ai un pote qui passe son temps à me gratter. Ce bâtard partagerait pas sa 4G. Il me fait du chantage en disant que j'ai changé. Grâce à lui, j'ai de l'inspi, merci de me faire chanter. La 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 la. Si ton pote est sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. J'arrive sur scène comme oh. Pourquoi je prends la grosse tête comme ça? Discipline. Tu comprends pas que je suis triste. Ma cervelle dans les serres, c'est un feu d'artifice. J'étais un sale geek avant que le mot existe. Ouais. Quand tu peux pas rentrer, même quand t'es sur la liste. Hey. Difficile de se rappeler qu'il y a deux manières de flamber. Hey. Quand ma bite fait tout pour m'empêcher de penser. Hey. J'aurais pu pour me planquer, maintenant je rêve de flamber. Hey. Amis rappeurs français, vous allez pas me manquer. Hey. Comme envie d'éclater un type au hasard. Hey. Envie d'insulter un journaliste trop bavard. Hey. Débarquer tard le soir devant leur paftard. À l'hôpital à cause d'une star, mais que wish pas tard.
Que du bonheur.
Je vais peut-être finir mon verre, ou peut-être que c'est le contraire. C'est lui qui va me finir. Je vais peut-être finir par terre. Je suis ni gros ni ton frère. Restez poli, faut le faire, faut de la discipline.
Discipline. Discipline. Discipline.
Un ancien fan m'a dit t'es trop commercial. J'ai dit je sais pas ce que ça veut dire trop commercial. Non. Il a dit quand tout le monde aime bien, c'est trop commercial. Okay. J'ai dit tu fais quoi dans la vie? Il a dit je suis commercial.
Ok.
Faut que je me fasse violence. Ces tweetos de merde ont trop d'arrogance. Les vieilles connaissances prennent vite la confiance. Ça va dégager, c'est bientôt la brocante.
Je reprends la discipline.
Je reviens comme une ex qui t'a fait morfler. L'appel que t'aurais pas dû décrocher. Fermez vos gueules, j'ai gagné mes procès. Mes textes étaient mieux quand je les posais. Tout le monde est cool avec moi, mais c'est stratégique. Je pensais pas que me faire sucer deviendrait pathétique. Avant de raconter, toutes les meufs sont maléfiques. Arrête de les rencontrer dans les carrés VIP. Carrés VIP. Barrez-y. Allez-y. Je vais me barrer vite.
Je vais partir en couille, faut de la discipline.
Trop de putain de leggings, trop de putain de leggings. J'essaie d'être fidèle, mais y'a trop de putain de leggings. Redoute le jour où je perds ma rigueur. Je vais démonter ta pétasse, ça va rentrer dans un kinder.
C'est méchant.
Rentrer dans un kinder.
Ça veut rien dire.
Ça sera le nom du single.
N'importe quoi.
Avant jouer des singles.
Ok. Bien joué, ma petite gueule.
Orelsan, Discipline, a retrouvé sur l'album La fête est finie, et Orelsan a retrouvé aussi dans la BO du film Black Snake dont nous allons parler aujourd'hui. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, nous sommes avec un rocher qui pèse dans la pop culture, au-delà des soirées de l'ambassadeur, mais de qui peut-il s'agir? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, Carole, c'est votre portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline Rarouille.
Aujourd'hui, nous recevons une héroïne, enfin mon genre d'héroïne, de celle qui donne l'impression de ne rien lâcher jamais. Et c'est aussi rassurant que motivant. Alors certes, je projette évidemment ce que j'ai vu dans certains de ces personnages, soit le genre de femme qui, en un regard lancé en biais, peut casser en deux toute une armée, au hasard Roxane, dans Braco, Chris, dans Police, ou elle-même, dans le bal des actrices. Une qualité que, de manière un poil trop rapide et caricaturale, on aurait tendance à ranger du côté des attributs testostéronés. Sauf que, notre invitée est plutôt du côté de la parité, voire de la sororité. Elle joue beaucoup, dirigée par des femmes, parmi lesquelles Sylvie Vered, Anne Fontaine, Maïwenn, et que du coup, la force n'annule pas la sensibilité. Et puis, qualité ultime, en plus du fait d'avoir réalisé un clip pour Benjamin Biolay, notre invitée est drôle et elle est venue le prouver avec un film qu'elle a co-réalisé avec sa moitié qui ne l'est pas moins drôle. Aujourd'hui, donc, nous recevons une certaine idée de la perfection en la personne de Carole Rocher.
Carole Rocher.
Merci.
Vous êtes plutôt du côté de la sororité, donc.
Ouais.
Je reprends la terminologie rouxienne. Vous sentez plus à l'aise avec des réalisatrices
Non, je femmes, me sens non. à l'aise. En fait, je me sens à l'aise avec les gens que j'aime bien pour de vrai. Mm-hmm. Voilà, donc ça peut être un homme, une femme. Après, il y a des rencontres. C'est vrai que Sylvie, je l'ai rencontrée il y a très très longtemps maintenant, il y a 20 ans, pour son premier film qui s'appelait Un frère, avec Emma, mm-hmm. de Cône. Et non, c'est des rencontres. En tout cas, il faut que je sois avec des gens... avec qui je me sens en sécurité.
Avec qui ça fonctionne.
Ouais, voilà.
En sécurité.
Ouais.
Le mot très important.
Ouais.
Bien, Carole Rocher, qu'est-ce qui vous fait vibrer sur la planète pop? Pour le savoir, on va passer à votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi « C'est pour ton bien », sous-titre « Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant » d'Alice Miller, paru en 2015 chez Flammarion. Charline, voilà une phrase que vous me répétez à longueur de journée. Hein. Dois-je en conclure que vous cherchez vous aussi à m'éduquer ?
Beaucoup trop tard, malheureusement. Alice Miller dénonce les méfaits de l'éducation traditionnelle qui a pour but de briser la volonté de l'enfant pour en faire une petite chose docile et obéissante, car pour elle, à l'origine de beaucoup de mots, on trouve presque toujours ce qu'elle qualifie de meurtre de l'âme enfantine.
Alors, Carole Rocher, nous avons choisi un extrait de ce livre. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous le lire, s'il vous plaît ?
Bien sûr, je vais essayer de bien le lire. C'est pas gagné, hein, je vous le dis.
Allez-y.
Mais bon, on y va. « Quelle chance pour ceux qui gouvernent que les hommes ne pensent pas », disait Adolf Hitler. « La seule connaissance des lois du développement de l'enfant ne nous met pas à l'abri de l'insatisfaction, ni de la colère, lorsque son comportement ne correspond pas à nos représentations idéales, ni à nos besoins, sans parler des cas où il semble mettre en péril nos mécanismes de défense. La position des enfants est toute différente. Ils ne sont pas entravés par un passé et leur tolérance vis-à-vis des parents est absolument sans limite. »
Extrait de « C'est pour ton bien » d'Alice Miller, choisi par Carole Rocher. Alors Carole, pourquoi ce choix qui n'est pas hyper pop? Je veux dire, on est loin de James Ellroy que vous adorez par exemple.
Écoutez, vous savez quoi? Si, il est pop en fait. Parce que justement, comme je vous le disais en début... c'est que la pop, c'est la liberté.
Ouais.
Et que la liberté, elle commence par l'éducation.
Bien sûr.
Et moi, j'ai découvert Alice Miller, on va dire, je ne sais plus, il y a 15 ans. Mais franchement, je lisais ses livres comme quand on peut lire un roman, je pleurais. C'est-à-dire que ça me connectait avec moi, ça me connectait avec mes parents. Et ça me connectait avec la maman aussi que j'étais. Et ce pouvoir qu'ont les adultes sur les enfants, il est tellement dangereux. Mmh. Et de donner de la liberté aux enfants, de leur apprendre la liberté, c'est tellement leur apprendre la confiance en soi, c'est tellement leur apprendre l'amour de soi et des autres, et leur apprendre à ne pas avoir peur des autres et de soi-même. Je trouve qu'Alice Miller, c'est extraordinaire. Et puis en plus, elle écrit simplement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de grandes études. Alors, j'adore lire, mais tout le monde peut le lire. Et c'est aussi symboliquement la preuve que c'est une grande dame.
C'est une psychanalyste américaine,
ouais.
C'est ça.
Mm.
Lisible, donc.
Oui, non, c'est extraordinaire.
Pour le film Carole Rocher, vous choisissez « Scène de la vie conjugale » réalisé par Ingmar Bergman, sorti en 73. Charline, je parle mal le suédois, vous qui avez de l'expérience est-on condamné à se faire des scènes dans une vie conjugale ?
Oh oui ! Je ne vais pas expliquer pourquoi ici.
Parlez-moi gentiment, s'il vous plaît.
Johan est professeur de psychologie, Marianne avocate. Ils sont mariés, ils sont heureux depuis 10 ans avec leurs deux petites filles. Mais lors d'un dîner, ils sont témoins de la violente dispute d'un couple d'amis. Et là, c'est la galère.
Extrait.
Ordet var klumpig. Jag sätter den ära i att vara klumpig och fantasifull. Ja. Det märkliga är att enligt Katarina så är jag egentligen en ryggradslös geléklump.
Ska vi inte försöka ha lite trevligt nu och lämna livets orättvisor utan?
Jo, just det, därför att...
Bah alors, évidemment, nous avons gardé la version originale, version suédoise, parce que pour respecter le jeu de l'acteur. Mm-hmm. Mais racontez-nous. Pourquoi est-ce que vous aimez tellement ce film, Carole?
Parce que j'adore la manière dont c'est filmé. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec chaque personnage. On est avec eux, avec leurs émotions, leurs sentiments. C'est quand même une histoire d'amour incroyable. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est deux âmes sœurs. Alors là, pour le coup. Et on se pose avec les personnages, on se pose avec leurs sentiments, avec leur colère, avec leur remise en question. Enfin, c'est et puis cette femme qui reprend un peu sa liberté aussi. Ah non, mais moi je peux le regarder 15 fois et c'est je sais pas comment dire, c'est extraordinaire. On rentre dans l'âme de chaque personnage.
Vous pouvez le regarder 15 fois sans faire pour autant des progrès en suédois, si j'ai bien compris.
Que dalle, ouais.
School Offenstruck.
Ça veut dire merci Bravo. Beaucoup, Charline Roux. Bien, Carole Rocher, passons à la série. Et cette série, c'est The Handmaid's Tale, créée par Bruce Miller. C'est inspiré du roman La Servante Écarlate, écrit par Margaret Atwood, et diffusé depuis 2017 sur OCS en France. Charline, vous allez me dire qu'il s'agit encore là de sororité, si chère à Carole, j'imagine.
Oui, mais peut-être je projette un peu. Hein. On est dans une société bien vénère et totalitaire. Les femmes sont divisées en trois catégories. Les épouses qui dominent la maison, les Martas qui l'entretiennent, et les servantes dans le rôle et la reproduction. Ceci est une fiction, je précise, parce que c'est pas limpide.
It's morning again in America. Today, more women will go to work than ever before in our country's history. This year, dozens of children will be born to happy and healthy families. It's morning again. It's morning again. It's morning again.
Wake up, America. Morning's over.
Et ça, c'est la bande-annonce de la saison 3 qui arrive le 5 juin.
Bien. Carole Rocher, pourquoi choisir cette série légèrement, quoique, dystopique?
Non, mais je suis complètement fan.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'actrice est extraordinaire. Les acteurs sont extraordinaires. Parce que l'univers a été super bien réalisé. Les costumes, les cadres. Bon, l'actrice, on n'en parle même pas.
Mmh. Elisabeth Moss.
Exactement. C'est une série qui vous connecte aussi en tant que femme, en tant que mère. Non, c'est... Et, je suis à fond.
Et qui n'est pas toujours très agréable à regarder.
Pas du tout.
Poil anxiogène, on va même...
Anxiogène et puis difficile quand on est... Enfin, c'est quand même un peu l'éventail de toutes les tortures qui peuvent être faites aux femmes.
Ouais, exactement. Mmh. Et non, c'est...
Ça me donne envie.
Ouais.
Bien, merci.
Non, c'est extraordinaire.
Merci Carole. Terminons cette pop list avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. Nothing But a G-Fang de Dr. Dre, sorti en 92 sur l'album The Chronic. Carole, vous voilà fan de gangsta rap, c'est la poésie bucolique des textes qui vous touche ou...
Exactement, ouais. Ça me fait rêver.
Pourquoi est-ce que j'aimais tellement Dr. Dre?
C'est mes fantasmes en fait. Non, écoutez, cette chanson, par exemple, ce morceau, on va dire, ça m'accompagne depuis que c'est sorti, c'est-à-dire depuis les années 90. Mm-hmm. Et je ne m'en lasse pas. C'est-à-dire que c'est un morceau qui mes filles, elles le connaissent par cœur. Tout le monde le connaît. Tous les gens qui me connaissent connaissent ce morceau et savent que ça m'accompagne. J'aime tout.
Je résume. Alice Miller, Ingmar Bergman, Dr. Dre, Handmaid's Tale. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Ordet va klumpé.
It's morning again in America.
Oh, fantasyful. De mer, ja, ja.
Today. More women will go to work than ever before in our country's history.
Att enligt Katarina så är jag egentligen en ryggradslös geléklump.
It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and
Leur tolérance vis-à-vis des parents est absolument sans limite.
It's morning again.
Yo,
wake up, America. Morning's over.
général, vous vous retrouvez dans ce smoothie de pop culture. Oui.
Ouais, il y a un mix de violence et d'amour et ça correspond à pas mal de choses finalement. C'est pas mal comme thérapie, votre émission.
Mais attendez, l'émission ne fait que démarrer. Carole Rocher, passons de Dr. Dre à Charles Bradley avec le morceau Can't Fight the Feeling. Blues de Charles Bradley avec Can't Fight the Feeling dans Pop 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 sur France Inter. Après avoir switché de Dr. Dre à Charles Bradley, re-switchons à nouveau de Charles Bradley à Booba, présent dans la BO de Black Snake, votre film, Carole Rocher, pour en parler.
C'est-à-dire que c'est la musique qui accompagne vos apparitions dans le film. En tout cas, c'est ce qu'entend le héros à chaque fois qu'il vous voit. Ça situe déjà la tonalité du film. En quoi la bande originale vous a-t-elle aidé à construire l'ambiance ?
La bande originale était alors c'est Skred qui est aussi le producteur d'Orelsan qui a fait le score et c'est vrai que comment vous dire on s'est amusé à chaque étape du film à l'écriture alors le scénario était déjà écrit quand moi j'ai rejoint Thomas et on l'a réadapté ensemble à la réadaptation du scénario en fait on retenait que ce qui nous faisait marrer. Sur le tournage, en prépa aussi. Sur le tournage, je ne vous en parle même pas, c'est une crise de fou rire par jour, minimum. Et puis après, au montage, pareil. Et après, la musique, à un moment, on a mis ce qui nous faisait marrer. Voilà, c'est tout. Et je ne veux pas trop en dire sur le film, mais c'est sûr que quand celle pour qui il a le béguin, quand elle débarque et qu'il y a la chanson de Booba, moi, personnellement...
Je fais des violons, hein.
Ça m'éclate.
Voilà. La musique, il reste
un avec la tête de Thomas en face, quoi. Voilà.
Je reste sur la musique un instant, quand même. Nous écoutions Orelsan tout à l'heure. Orelsan, donc, vous venez de le rappeler, produit par Skred. Skred qui s'est occupé de la BO de Black Snake et Orelsan qui figure donc sur la BO... Ça veut dire que tout est lié, c'est incroyable. Mais quel était le pitch de départ pour cette bande originale ?
C'était que ce soit cohérent avec le film. Et puis, vous voyez, c'est un film qui se passe dans les années 70. Donc, c'est pas une musique des années 70, loin de là. C'était vraiment. Alors, Skred, qui a fait le score du film, avait fait le film d'Orelsan. Le titre, c'est. Comment
c'est loin.
Oui, comment c'est loin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film et dans la manière dont il a accompagné musicalement ce film. Et voilà, donc c'était juste être drôle avec la musique aussi, et c'est assez intéressant en fait.
Avec une passion particulière pour Booba, qui revient à plusieurs occasions dans le film,
ouais.
Enfin, dans la BO.
Ouais. Ouais. Ouais, il revient un peu dans le film après, oui, voilà. Mais c'est vrai que Thomas aime beaucoup Booba, et moi aussi d'ailleurs. On l'écoute beaucoup, on apprécie beaucoup son travail, sa musique, ce qu'il est aussi.
Il a vu le film ?
Oui, il a vu le film.
Ah oui. Mmh. Et alors ? Il l'a validé ?
Oui, il l'a validé, c'est validé.
Excellent.
Je crois qu'il l'a validé. Ouais.
Ouais. Ça veut dire que Carice ne va pas l'aimer, donc.
Oh. Bah, ouais. Oh. Nous, on n'est pas là-dedans.
Non, vous n'êtes pas
là-dedans. Ouais, on va passer l'âge.
Alors, Black Snake, c'est le film que vous co-signez avec Thomas Njijol, l'histoire de Clotaire Sangala, joué par Thomas, et qui, après avoir passé des années à Paris, revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois, expert en arts martiaux, persuadé d'avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accro aux femmes et à la vie facile, égoïste et sans ambition, j'ai l'impression de parler de moi. Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin. Il va devenir Black Snake.
Papy,
je crois en toi.
C'est vraiment dommage.
Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. Ta force ne connaîtra plus de limites. Qui es-tu?
Je suis Black Snake.
C'est quoi Black Snake?
Ça signifie le serpent de couleur noire. Oh. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif.
Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue.
Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer.
Toi et moi, on a...
Ta gueule !
Reste courtois ! On peut se foutre sur la gueule, mais dans le respect !
Black Snake, c'est donc, Carole Rocher, un film que vous co-réalisez et interprétez, oui, avec Thomas Njijol. En dehors du fun, quelles ont été les bases et règles de ce travail à deux ?
Beaucoup d'échanges et absolument comprendre la vision de chacun. Et c'était des échanges en permanence. Et aussi, moi, quand j'ai rejoint le projet et dans mon travail de réalisatrice, j'avais vraiment à cœur qu'à la fin de ce tournage, Thomas n'ait pas eu le sentiment que son rôle de réalisateur ait nuit à son travail de comédien. Mmh. Donc voilà, je voulais qu'il se sente totalement libre et qu'il puisse s'appuyer sur moi à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, c'était beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance. Après, j'ai mis en scène le spectacle de Thomas. Donc, on venait de travailler pendant un an et demi ensemble. Donc, on sait se parler, on sait se comprendre. Et puis c'était beaucoup d'échanges. Et puis, on avait envie de faire un beau film, comme on a envie, avec qui on a envie. C'était super.
Même les costumes sont pop dans le film, hein, car ils sont à la gloire des sapeurs. Est-ce que vous avez la même passion que moi pour la sapologie ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Enfin, l'expliquer à nos auditeurs.
Je ne sais pas si vous allez mieux l'expliquer que moi, parce que je ne vais pas avoir la prétention de savoir bien l'expliquer. Une passion, je ne sais pas, mais je trouve ça assez touchant, finalement. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une manière de se sortir d'une situation un peu catastrophique. Justement, on en revient à la France-Afrique et on en revient à plein de choses dont les Africains ne profitent pas. Et ben d'un seul coup, d'être un dandy.
Détourner les codes.
De détourner les codes, d'être un dandy, de prendre sa canne. Et de s'imposer dandy, alors qu'on vous met dans un petit coin et on vous dit, toi, tu es moins que rien, parce qu'on parlait de l'Afrique du Sud, et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué en Afrique du Sud, c'est que le blanc a beaucoup de hauteur. Et là aussi, ici, il faut le reconnaître, que le blanc a naturellement une hauteur vis-à-vis du noir. C'est des choses... Voilà. Et ben, de dire, ben, c'est moi le dandy. Voilà. Et ben, moi, c'est ça que ça me raconte, la sapologie. Et c'est là où je trouve ça touchant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a plus positif que de mettre de la couleur et d'être... Voilà, de donner ce message... de beauté et tout, de fête aussi.
C'est joué avec beaucoup d'ironie de tous ces codes, justement.
Voilà, ouais, on part de là, du dandy, c'est pas vraiment encore des sapeurs, mais on est dans les années 70, et la sapologie, c'était un peu après. Ouais, voilà.
Et votre personnage aussi est sapé comme jamais, hein, entre wax et grosses lunettes de secrétaire des années 70. Comment est-ce que vous avez conçu son costume ?
Alors, moi j'avais plein de références... on a demandé à Gigi Lepage. Alors Gigi Lepage, c'est une créatrice de costumes, costumière qui a fait tous les films d'Olivier Dahan. Et qui avait fait aussi ce spectacle de Mozart, opéra rock, je me rappelle plus. Ouais. C'est une créatrice extraordinaire.
Non, je crois que c'est Mozart l'opéra.
Mozart opéra rock. Elle est extraordinaire. Donc je savais qu'en faisant appel avec elle, je pouvais me consacrer à autre chose sur la prépa. Tout allait être formidable. Et c'est vrai que mes références étaient les mêmes que les siennes quand on a commencé. Et moi, j'avais envie que les gens... Et donc, Françoise, elle l'est, ok. Mais j'ai envie que tout le monde soit un peu sexy, un peu beau. C'est-à-dire qu'on peut rire, on peut vivre des drames. Et être beau et sexy, c'est du cinéma. Et j'avais envie de rendre hommage à tout ça.
Enfin, bravo, parce que courir en jupe fourreau, c'est pas la portée de tous.
Voilà, c'était le pop-up de Madame Rocher que je me suis fait un plaisir de réécouter en dégustant. Hein.
Ça colle aux dents, hein. Ouais.
Enchaînez, Charline, avec les pop news. J'ai la bouche un peu pâteuse.
Elle s'appelle Courtney Jay, elle est américaine, musicienne, chanteuse, compositrice et fan de musique hawaïenne. Et elle publie sur ses réseaux sociaux de jolies petites chansons à l'attention du président américain. La dernière en date s'appelle Bunker Boy et c'est l'histoire d'un homme qui a peur pendant la nuit et s'enferme dans son bunker.
Bunker Boy, don't lie. You got scared and hid in the basement in the middle of the night. You're not so tough, no. It's a sorry sight. So take your Bible, shove it up your ass and turn on the fucking lights. Bunker Boy.
Pour retrouver ce titre ainsi que les autres adressés au monsieur Orange, c'est sur le compte Twitter @tropicalyj.
L'éternité peut paraître longue, un slogan de circonstance que l'on peut lire sur les affiches de The Old Guard, un film dans lequel Charlize Theron est à la tête d'une bande de mercenaires immortels. Et évidemment, leurs pouvoirs en font des objets de convoitise.
So you good guys or bad guys?
Depends on the century.
So we really never die.
Just because we keep living doesn't mean we stop burning.
Throughout history, we've protected this world, fighting in the shadows. But it's nearly impossible to disappear in the world we live in today.
The Old Guard avec Charlize Theron et Chiwetel Ejiofor. Et ça sera le 10 juillet sur Netflix.
France Inter. Popopa. Antoine de Cône.
Ah, c'est moi encore.
Pee-wee Herman.
Mais oui, j'étais d'ailleurs, pourquoi je serais pas là aujourd'hui.
Merci Charline. Le comédien William Leadbeal est dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Four American Dollars, le morceau du groupe de pop expérimental américano-canadien US Girls. US Girls, c'était Four American Dollars et cet extrait de l'album éponyme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture en éternuant, pardon, dans son coude. Sens de l'accueil, toujours. Bonjour William Lebgill.
Bonjour.
Et bonjour.
Est-ce que vous toussez dans votre coude?
Oui, ça fait bien avant le confinement déjà. Hein. Je toussais dans mon coude vers mes 6-7 ans, j'ai démarré.
Ah oui, vous êtes une espèce de pionnier du toussage de coude, si je comprends bien.
Oui, tout à fait, parfaitement.
Bon, William, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans le magazine de la santé. Je ne suis pas Michel Simès et Charline Roux n'est pas Marina Carrère d'Encausse. Sinon, je lui demanderais si elle connaît l'histoire du mec qui a 5 zigounettes. Elle me répondrait non et je lui dirais que son slip lui va comme un gant. Non, vous n'êtes pas dans ce genre d'émission. William, n'est-ce pas?
Non, on n'est pas là. Ceci étant précisé, William, vous avez porté la blouse dans l'excellent film Première année de Thomas Lilti, qui lui a une vision très claire de l'état de l'hôpital public. Est-ce que sa fréquentation et ce tournage a peut-être influé sur votre manière de voir et de traverser cette crise?
Non, pas du tout. Non, ça m'a rendu peut-être un peu plus hypochondriaque.
C'est la fréquentation de l'hôpital et du milieu médical vous a rendu encore plus hypochondriaque que ce que vous n'étiez déjà avant?
Oui, je l'étais déjà avant un petit peu, et puis après le film, je suis devenu franchement hypochondriaque, quoi. C'est devenu quelque chose de très, très présent.
Tout en continuant à tousser dans votre coude. William, comme vous êtes dans Pop Pop Pop, nous allons parler de pop culture. Vous êtes membre du jury du Champs-Élysées Film Festival, un festival qui démarre aujourd'hui, non pas sur les Champs-Élysées, mais en ligne, à cause du Covid-19. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre un smoking pour la soirée d'ouverture. Vous pouvez rester en pantoufles et en jogging dans votre canapé ce soir, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Je dois dire, c'est assez agréable. De lier la mondanité avec le confort, c'est vraiment exceptionnel.
Quel genre de préparation implique cette haute fonction? C'est-à-dire, quel genre de juré vous allez être?
Je pense que je serai un juré juste et détendu.
Alors, un juré juste, c'est ce que disent les dictateurs, hein, généralement.
Oui, mais bon, écoutez...
C'est la 9e édition de ce festival qui met en avant la jeune création du cinéma indépendant français et américain. Et pour la première fois, ce festival 100% en ligne est gratuit. Le but est de toucher le plus grand nombre, mais avec les gestes barrières, on est bien d'accord?
Oui, tout à fait. Ouais, gestes barrières oblige. Du coup, personne ne se rencontre. On se voit tous sur des petits ordinateurs ou des petites tablettes. C'est vraiment c'est super.
Question jeune création, puisque c'est l'objet de ce festival. Vous en connaissez un rayon, hein, de Victor Saint-Macary, avec qui vous avez tourné à Miami, à Benoît Forjard et son frigo Yves, avec lequel vous avez cohabité, en passant par Riyad Satouf. Voilà, que des jeunes gens. Quel plaisir est-ce que vous y trouvez, vous, comme comédien d'abord, et puis peut-être comme spectateur ensuite?
En même temps, moi, j'ai pas trop travaillé avec des gens, avec des vieux, quoi. Du coup, je saurais pas vous dire quelle est la différence, mais c'est vrai que tourner avec Benoît Forjat ou Riyad Satouf, même Victor, c'est exceptionnel. Et c'est en fait ce qui est génial vraiment, c'est d'entrer dans un univers qui est vraiment unique, quoi. Enfin, en tout cas, à la lecture des scénarios, par exemple, de celui de Riyad Satouf, c'était la première fois que je lisais un scénario comme ça, quoi. C'était tellement inattendu, quoi. Chaque page tournée était un réjouissement total de surprise, d'étonnement et tout ça. Du coup, il y a une espèce de liberté, justement, dans cette création-là qui m'excite énormément.
William Lebgill, à vos côtés, acteur et réalisateur, forme le jury de ce festival, et en special guest, les réalisateurs Stephen Frears et Edgar Wright, qui viendront à la rencontre du public pour des masterclass. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir chez nous, c'est ça?
Ça, je sais absolument pas comment ça va se passer, j'avoue. Peut-être qu'ils vont aller manger chez les gens pour leur dire un peu comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer, j'avoue, ça, j'en sais un peu rien, mais peut-être qu'ils vont faire dans un cinoche avec les mesures barrières, genre un siège sur deux.
Je crois que c'est des conférences virtuelles.
Ah oui, des conférences virtuelles, évidemment.
Et ceci étant dit, lequel vous voudriez séduire en priorité pour chiner un rôle, l'homme des liaisons dangereuses ou celui de Shaun of the Dead?
Shaun of the Dead, hein. Ouais. Ouais, très clairement.
Ça vous irait bien, l'univers d'Edgar Wright?
Ouais, peut-être.
Même un Scott Pilgrim ou ce genre de cinéma, c'est un peu votre genre, non?
Oui, aussi, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai un petit côté caméléon qui me déplaît pas.
Ouais.
Ce festival souhaite également renforcer les liens entre musique et cinéma avec une série de performances à découvrir en ligne et des playlists comme celle de Yuxek, par exemple. Et j'ai une question d'un certain Didier qui a tenu à garder l'anonymat sous peine de mettre des coups de batte et qui demande, est-ce qu'il y aura du Dick dans la playlist?
J'espère qu'il y aura du Dick un peu, hein. J'espère qu'ils auront l'ouverture d'esprit de mettre un peu de Dick Rivers, hein, quand même.
Ah oui, vous le dites à l'américaine, vous, carrément.
Bah, bien sûr.
Bah, parce qu'à la française, c'est... Enfin bon.
Ouais, non, on n'a pas dit traduire.
Oui, ouais.
William Lebguil, qu'est-ce que vous faisiez quand le confinement nous a été imposé? Vous étiez en tournage?
Non, j'étais en voyage au Chili.
Ouais.
Et avec un pote. Et en fait, on a commencé à paniquer. Au Chili et on devait rester une semaine de plus, puis on est rentré pile poil en fait quand on a atterri en France. Ils annonçaient qu'ils fermaient les frontières chiliennes, et le soir même notre président nous annonçait qu'on était en guerre. Donc vraiment je suis pile passé dans le soupirail pour rentrer voir mes proches.
Ouais.
Pour me confiner avec eux, donc j'ai eu de la chance.
Et alors, question subsidiaire, un frigo intelligent, voire trop intelligent, comme Yves, du film du même nom, est-ce que ça vous aurait rendu le confinement un peu plus doux?
Je sais pas si Yves aurait... Je pense qu'on se serait... Ouais, non, je pense qu'avec Yves, on se serait un peu mis sur la gueule.
Ouais.
On pouvait pas se voir 24 heures sur 24 enfermé avec Yves, ça aurait été insupportable. Il aurait été arrogant, il aurait voulu tout faire à ma place, ça aurait été terrible.
Mais ça aurait réglé les problèmes de courses et d'autorisation pour sortir.
Alors oui, ça c'est vrai, mais en même temps, faire les courses c'était un peu la seule occupation détendante qu'il y avait pendant ce confinement. Donc s'il y a quelqu'un qui l'ait fait, moi j'étais hyper content de partir... au supermarché pour faire des courses.
Avant de revenir sur la plus belle avenue du monde l'année prochaine, rendez-vous donc sur champs-elysées-festival.com pour ce festival 100% en ligne et 100% gratuit. William Lebguil, depuis que je sais que vous traînez en pantoufles et en jogging dans votre canapé, j'aimerais savoir ce que vous y faites. Et pour ça, on va passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, William, vous avez choisi Siddhartha, le roman philosophique d'Hermann Hesse, paru en 1922 en langue allemande. Charline, pouvez-vous nous le résumer en allemand, s'il vous plaît?
Alors, en allemand, non, mais éventuellement en français, si vous le souhaitez. En Inde et à l'époque du Bouddha Gautama, Siddhartha cherche son chemin. Et c'est en parcourant justement des chemins différents et parfois contradictoires qu'il parvient à la conclusion que la sagesse ne peut pas se transmettre comme la connaissance de maître à élève, mais qu'elle doit être trouvée par soi-même. Et vous feriez bien de méditer là-dessus, Antoine.
Je vais commencer. Je vais lui mettre tout de suite. William, quel effet a eu sur vous ce roman philosophique, initiatique d'Hermann Hesse?
Il m'a ébloui. J'ai été totalement ébloui par ce livre. En fait, j'avais lu un autre bouquin d'Hermann Hesse qui s'appelait Domian. En fait, c'est toujours un peu des quêtes initiatiques. Le personnage principal est toujours un peu dans une quête spirituelle, etc. Et en fait, ça m'a fait un effet vraiment très puissant, quoi. Je me souviens, quand j'ai fermé le bouquin après, je me suis endormi, puis j'ai fait un tas de rêves vraiment fous. Et puis, et puis en fait, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il est tout petit, donc il fait 150 pages. Parce que je suis pas non plus un très grand lecteur, quoi. Du coup, 150 pages, je trouve ça vachement bien. Ouais. Et il est d'une densité vraiment, c'est fou, quoi. On suit toute la vie d'un mec de ses 16 ans à ses 80 ans en 150 pages. Et on a l'impression que c'est d'avoir lu un bouquin de 2000 pages, quoi. On a l'impression d'avoir lu l'intégrale des Harry Potter, donc c'est quand même pas mal.
Et en même temps, être ébloui par un récit où il est question de Bouddha, ça tombe sous le sens.
Oui, évidemment. Ouais, non, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. En fait, moi, ça m'a vachement détendu.
Oui, je vous sens très détendu, là.
Ouais.
William, pour le film, vous citez Uncut Gems, film survitaminé, lui, des frères Safdie, disponible sur Netflix. Charline, qu'a-t-il donc de si dingue, ce film, pour que tout le monde nous en parle, à part d'être passé à côté des Oscars ?
La tension, la folie narrative et visuelle des frères Safdie et un grand, très grand Adam Sandler dont on oublie assez injustement qu'il est aussi l'homme de Funny People, de Punch Drunk Love et d'autres grandes prestations. Celle-ci en fait partie.
J'ai pris un sacré risque, j'ai misé gros. Je pense que ça va enfin payer. Je donne les Celtics gagnants à la fin, mais aussi à la mi-temps. En plus, je vais prendre les points au tir et les rebonds de Garnett.
Qu'est-ce que tu sais ?
Je suis au courant de rien, je le sens, c'est tout.
C'est le pari le plus débile qu'on ait jamais fait.
Eh ben, on verra.
William, c'est pour la prestation, c'est pour la prestation d'Adam Sandler que vous choisissez ce film ?
Pas que, mais franchement, pour beaucoup, c'est sa prestation qui est. En fait, moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps dans Punch Drunk Love, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, parce que je pensais j'aimais pas trop Adam Sandler, je me disais ouais, il est pas très marrant et tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un acteur génial et dans Uncut Gems, il est exceptionnel, quoi. Vraiment, il est. Ouais. Il se transforme, enfin vraiment, il est magnifique, quoi. Et pour le coup, là, le film est absolument pas détendant. Il est
non.
Enfin vraiment, à la différence de Siddhartha, moi, il m'a vraiment stressé pendant 2 heures. J'étais comme ça là, et c'est vrai que ça m'arrive peu d'être comme ça devant un film, donc ça m'a fait des effets physiques. Donc c'était vraiment, c'était exceptionnel.
Bon, il vaut mieux lire Siddhartha après Uncut Gems. Hein, on est d'accord.
Oui, ouais, ouais, si vous, ouais, franchement, dans cet ordre-là, c'est parfait.
Bon. William Lebgill, on continue avec la série que vous avez choisie. Vous faites le même choix que Fred Testo, qui lui-même faisait le même choix que Myriam Leroy, vous choisissez Succession. Charline, vous qui avez coutume de résumer cette série comme, je vous cite, un Dallas sans moumoute et sans pétrole, résumez-nous-la à nouveau, s'il vous plaît.
Non, vous venez de le faire, donc je vous propose plutôt d'écouter un extrait. Je peux juste vous préciser que ça se passe dans l'univers des médias. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pétrole. Ça vous va ou pas ?
Très bien.
Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them.
Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off!
It's my company.
You are a fucking nobody.
William, pourquoi choisissez-vous ce Dallas sans moumoute et sans pétrole, comme dit Charline ?
Parce que tous les personnages se déplacent essentiellement en hélicoptère.
Oui, c'est une bonne raison.
Déjà, ça me plaît énormément. Et puis, pour le père aussi, le père de famille, là, le patriarche et son fameux « fuck off », qui est exceptionnel.
Ouais.
Et non, je sais pas pour... parce que pour moi, les dialogues, les acteurs, les situations, elles sont ultra modernes et ultra... je sais pas comment dire, c'est shakespearien et en même temps, c'est tellement actuel que c'est... pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre, cette série. J'ai été, pareil, assez ébloui.
Très bien. Et terminons cette pop-list avec la chanson que vous choisissez, William Lebgill. Et c'est drôle parce que vous faites le même choix que... personne. Ce choix, c'est Contas, de la chanteuse brésilienne Elis Regina. Ça veut dire quoi? Que vous êtes là à Sao Paulo en train de siroter une caipirinha en écoutant ce morceau?
Non, en plus là à Sao Paulo, c'est Covid à fond là, non?
À fond, oui. Plus Covid, tu meurs.
Non, mais c'est vraiment pour l'aspect vraiment extrêmement bucolique du déconfinement, quoi. On se dit voilà, ça y est, la vie reprend. Il y a des petits oiseaux, des petits chants d'enfants, c'est une musique assez sautillante. Je vous la conseille franchement, quoi. Après Succession, c'est pas mal pour le coup aussi d'écouter Contas.
Oui, voilà, ça détend. Donc en fait, le bon ordre, c'est Uncut Gems, ensuite Siddhartha, et puis Succession, et puis Contas.
Voilà.
Mais c'est pas une pop list, c'est une ordonnance en fait.
Oui, tout à fait.
Bon, un joyeux cocktail et on écoute Elis Regina tout de suite.
À
As coisas que eu gosto, eu vou lhe dizer. São coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um sorriso embriagador. E esses seus olhos lembrando amor. Coisas que eu gosto, eu vou lhe dizer. São coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um sorriso embriagador. E esses seus olhos lembrando amor. Nem sei como pode você ser assim e ter tudo, tudo que é bom para mim. Nem de encomenda eu ia achar outro igual a você para amar. Os seus olhos, seu sorriso, que bonitos são. Você não existe, na certa sonhei quando inventei você. Nem sei como pode você ser assim e ter tudo, tudo que é bom para mim. Nem de encomenda eu ia achar outro igual a você para amar. Os seus olhos, seu sorriso, que bonitos são.
Você não existe, na certa sonhei quando inventei.
Effectivement, ça fait du bien par où ça passe. Elle était bonne, ça vous a plu ?
Elle était délicieuse.
Je parle de la caipi, William.
Excellente.
C'était Contas, le morceau d'Elis Regina, servi avec des glaçons et un petit parasol hein, sur le verre, sur le bord du verre. C'est le choix de William Lebgill, notre invité slash barman slash mélomane. William Lebgill, nous sommes le 9 juin de cette année de merde 2020 et vous n'échapperez pas à nos trois petites questions, hélas, rituelles.
Magnifique.
Alors, je vous donne une baguette magique et vous pouvez changer quelque chose de radical dans notre monde pour que la situation qu'on vient de connaître ne se reproduise pas. Que faites-vous ?
Bah là, il faut que je me mette à bosser, que je devienne scientifique, et puis que je trouve un tas de vaccins, un tas de... Mmh. Enfin, en gros, il faudrait que je reprenne des études, quoi.
D'accord.
Mais vous avez dit que vous étiez hypochondriaque, vous pouvez pas aller dans des labos, où... c'est pas possible.
Ah ouais, putain, c'est vrai, non, je suis coincé, là, je sais pas quoi faire.
Quelle est la chose que vous rêvez de faire une fois que tout sera revenu à la normale ?
Aller me baigner dans la mer.
Mmh. Très bien.
J'aimerais me tremper dans la mer.
Bon, et pensez-vous, William, que cette crise va nous permettre de changer de type de société ou que tout va recommencer exactement comme c'était avant ? En gros, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ?
Y a des jours où je suis hyper optimiste, où je me dis que ça va vraiment changer. Puis il y a d'autres jours où, par exemple, j'ouvre mon portable et puis je lis sur Internet que... Il y a un tas de gens qui boivent des apéros dans la rue et qui jettent du plastique partout en s'en foutant. Je me dis, ah non, en fait, non. Mmh. Donc, ça dépend des jours et des infos.
Ça dépend des jours. Eh bien, merci.
Et j'ai un petit conseil pour essayer de changer les choses, que chacun soit obligé d'avoir un potager et de cultiver un potager. qu'on oblige chaque personne à faire ça.
Y compris quand on habite en centre-ville ?
Bien sûr.
Vous avez vous-même un petit potager, William ?
Bien sûr, j'ai un petit potager, des petites courgettes, des petits concombres.
Ouais, j'ai l'impression qu'il fait pousser des trucs, William.
Et un champ de pavots également.
Mais pas que. Merci William d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et merci de ne pas nous avoir rendu visite pendant cette période de post-confinement. Je rappelle que s'ouvre aujourd'hui la 9e édition du Champs-Élysées Film Festival, une édition 100% en ligne et 100% gratuite. Rendez-vous donc sur champs-elysées-film-festival.com. Merci encore William, merci Charline.
Merci Antoine, merci William.
Et rendez-vous avec vous
merci,
demain. Merci,
au revoir.
Ouais, bisous, nous serons en duplex avec Pierre Deladonchamp et nous rembobinerons le pop-pop-pop de Bilal Hassani. Mais avant ça, rendez-vous avec toute l'équipe de Par Jupidémie. Ça, c'est dans un instant.